RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent. Comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix et en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur deux destins féminins, deux figures féminines rares dans notre histoire et, je dois le dire, rarement associées. Mais vous allez le comprendre, l'une et l'autre ont dû se construire face aux hommes dans un contexte de guerre civile, de révolution à la française. L'une et l'autre ont connu la captivité. Je vais vous présenter la reine Marie-Antoinette et l'anarchiste Louise Michel, qui ont été, chacune à leur manière, à deux époques différentes, deux symboles très forts et peut-être encore aujourd'hui de notre vie politique française. Grâce à nos deux invités, historiens et biographes, nous allons retracer leur destin et tenter de comprendre ce que l'une et l'autre disent de notre histoire. Avec nous dans ce studio des Racines du Présent, Marie-Hélène Bellac, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Perrin donc la biographie de Louise Michel, sobrement intitulée Louise Michel. Je rappelle que vous êtes normalienne, agrégée d'histoire, vous avez consacré plusieurs ouvrages à la période révolutionnaire et au XIXe siècle, notamment il y a peu, La peur du peuple, histoire de la Deuxième République 1848-1852. C'était chez Perrin et nous vous avions invité à cette occasion-là. Avec nous également Charles-Éloi Vial, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, votre somme biographique s'intitule tout aussi sobrement Marie-Antoinette. C'est publié chez Perrin également. Je rappelle que vous êtes conservateur à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits. Vous avez écrit et vous continuez à écrire de nombreux ouvrages, notamment autour du 19e, dont une histoire des 100 jours, mars-novembre 1815, c'était chez Perrin en 21. Le siècle des chutes, abdication et déchéance, 1814-1870, c'était chez Perrin en 22. Et puis je crois que ressort en ce moment, en poche, me semble-t-il, Sauver l'Empire, 1813, la fin de l'Europe napoléonienne. C'est en texto, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Non, mais c'est pas grave.
C'est pas grave.
D'accord. Une prochaine fois.
Voilà, ça sera certainement pour une prochaine fois. Voilà, donc notre thème aujourd'hui, deux femmes, deux France, point d'interrogation. Louise Michel et Marie-Antoinette.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors je me tourne pour commencer cette émission vers Marie-Hélène Bellac. Nous allons commencer donc avec votre héroïne, Louise Michel. Alors Louise Michel, on n'en finit plus de noter les superlatifs pour l'évoquer. On dit d'elle qu'elle est une icône de la gauche, qu'elle a été une vierge anarchiste, la déesse du pétrole, la fée de l'anarchie, la Jeanne d'Arc du socialisme, la pucelle de Belleville, l'égérie de l'extrême gauche. Ce qui est sûr, c'est que la droite l'a détestée, la gauche l'a parfois portée au nu. Alors, pour commencer cette évocation de Louise Michel avec vous, Marie-Hélène Bellac, on va écouter votre prédécesseur, peut-être Alain Decaux. Alain Decaux qui, en octobre 1979, présentait à la télévision française, bien présentait Louise Michel, la Vierge Rouge de la Commune. On écoute en quels termes?
Elle est hagarde, furieuse, elle court, elle crie, elle pleure, elle hurle, le feu! Le feu, le feu devant eux, le feu! Elle court, cette femme, on la regarde, qui est-ce? Elle pleure, elle crie, ses cheveux flottent au vent, le feu, le feu! Il faut que Paris brûle! Cela se passe à la fin du mois de mai 1871, dans la Commune qui est en train de mourir. Cette femme, c'est Louise Michel. 1m64, cheveux et sourcils bruns, front haut, yeux bruns, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint ordinaire. Voilà le rapport de police. Teint ordinaire, peut-être. Mais la femme, elle ne l'est pas. Louise Michel.
Voilà, Louise Michel vue par Alain Decaux, c'était en 1979. On voit que celui qui est devenu plus tard ministre de la Culture cultive un sens de la dramaturgie. Il nous aide à nous resituer dans cette dernière semaine de mai 1871, la dernière semaine de la Commune, la fameuse semaine sanglante, on va en parler. Marie-Hélène Bellac, vous qui signez cette biographie de Louise Michel chez Perrin, est-ce que vous reconnaissez votre héroïne?
Alors, pas complètement. Oui. C'est une image traditionnelle de Louise. C'est Louise la pétroleuse, celle effectivement qui a participé aux grands incendies de la fin de la Commune. En fait, probablement pas.
Ah oui.
Par contre, elle s'est battue, c'est vrai, d'abord à Montmartre, au cimetière de Montmartre, et puis sur les barricades. Mais elle ne crie pas, elle ne hurle pas. Ce n'est pas, le style de Louise Michel.
Oui.
Même, je pense, quand elle se bat, elle aime se battre. Elle dit qu'elle aime l'odeur de la poudre.
Oui.
Mais par ailleurs, c'est une femme, au contraire, même qui a tendance à s'exprimer d'une voix lente. On lui reproche parfois sa voix d'institutrice.
Ce qu'elle a été,
absolument.
On va le voir.
Mais c'est pas cette image, évidemment, de la pétroleuse, même si elle va lui coller à la peau très, très longtemps.
Alors pétroleuse parce que justement les femmes, les communardes étaient soupçonnées de mettre le feu.
Oui, d'apporter en tout cas le pétrole aux hommes pour mettre le feu aux bâtiments de Paris. D'ailleurs, la Commune a mis le feu à un certain nombre de bâtiments et notamment à l'Hôtel de Ville.
Et aux
Tuileries, mais pas seulement.
Oui. Alors on va remonter le cours de cette vie de Louise Michel. Il faut rappeler que c'est quand même l'une des très rares figures politiques féminines de notre histoire. C'est une vie qui vaut bien un roman, en fait.
Complètement.
Depuis le début, alors racontez-nous, Louise Michel est née en 1830, est-elle née d'un viol?
Alors, probablement pas, hein, même si ça a été raconté évidemment. En fait, sa mère était la servante du château, c'est le châtelain probablement, on a dit aussi le fils du châtelain qui aurait été le père. En fait, on vivait assez en autarcie dans le château de Froncourt où les Démaïs avaient...
Nous sommes en Lorraine.
Voilà, nous sommes en Lorraine, hein, pas très loin d'ailleurs de Don Rémy.
Eh hein. Oui, voilà. Deux grandes figures politiques. J'aurais pu faire le lien avec Jeanne d'Arc, mais j'ai pas osé.
Bon. Et oui. Donc, on l'a fait à son époque. Mm-hmm. Et donc, on vivait un petit peu en autarcie, c'était un village de 125 habitants. Et les Démaïs, qui étaient des gens éclairés à l'origine des nobles, de la noblesse parlementaire, avaient fui la Révolution, s'étaient installés là sagement, si je puis dire. C'était des gens cultivés, de ceux qui justement au début soutenaient les idées révolutionnaires en 89.
Ah oui, c'était des libéraux.
La Lumière, c'était des libéraux, des
d'accord.
Voltairiens.
Mmh.
Et ils avaient recueilli une femme avec ses enfants et une de ses petites filles avait grandi dans le château. Elle aidait la châtelaine. Mmh. Enfin, c'était
une
très modeste.
Un peu familiale.
Une atmosphère un peu familiale. Oui. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment un viol? Bon, peut-être, hein, mais je veux dire, tout ça n'a été extrêmement feutré. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que après la naissance, qui a d'ailleurs été enregistrée par le châtelain, par Monsieur Desmaïs, puisqu'il était le maire de la commune.
Donc, il n'était pas le père, mais peut-être.
On ne sait pas.
D'accord,
il était peut-être le père. Oui. Bon, en tout cas, la mère n'a pas été mise à la porte. Au contraire, elle a continué sa vie, même avec ses sœurs qui étaient là le soir à la veillée. Et la petite fille a été élevée, comme on disait, la demoiselle du château.
Ah oui, intégrée
complètement.
Mais vous évoquez quand même, Marie-Hélène Bellac, vous évoquez une atmosphère bergmanienne.
Oui, parce que en fait, évidemment, c'était pas si simple. Notamment, il y avait une des filles du couple des Maïs qui disait bon, comment on lui fait faire des choses qu'elle ne pourra pas faire plus tard. Il faudrait lui apprendre des métiers à son rang.
À son rang.
Ce qui fait que quand elle s'est retrouvée sans son grand-père et sa grand-mère, quand ils sont morts, elle est devenue, elle a été renvoyée à sa condition de bâtarde.
Voilà. Mais c'était un esprit éveillé, sensible,
très
cultivé,
éveillé.
Qui a profité d'une certaine émulation intellectuelle.
Oui, complètement, complètement, qui a lu par exemple La Menée, elle dit vers 7-8 ans, peut-être un peu plus tard, mais qui lisait à peu près tout, un grand-père qui lui apprenait l'histoire, elle mettait en scène les pièces de Victor Hugo avec son cousin.
Victor Hugo qui aura une grande importance dans sa vie.
Très, très, très. Elle commence à lui écrire à l'âge de 20 ans et toute sa vie, elle va correspondre avec lui. Pour elle, c'est son gourou.
Oui. Alors, vous évoquez chez elle, dès son plus jeune âge, cette influence d'une certaine forme de catholicisme social.
Complètement, complètement. C'est une enfant qui est déjà portée vers le mysticisme.
Oui.
Et bon, bah,
très croyante.
Très croyante.
Dans un premier temps.
Dans un premier temps, dans une époque où on allait au on avait le catéchisme même à l'école dite laïque. Mmh. Hein, et elle avait notamment une de ses tantes qui avait été novice. Et elle dit que cette tante a eu beaucoup d'influence. Donc, elle était très croyante. Elle a d'ailleurs laissé un certain nombre de poèmes qui montrent qu'elle était croyante.
Mmh. Alors, elle devient institutrice.
Oui.
C'était une sorte de vocation pour elle, si on vous lit bien, Marie-Hélène Bérec.
Oui, parce que elle aurait voulu être poète. D'ailleurs, elle a adhéré à l'Union des poètes. Et dans un recensement, c'est très intéressant, à Vroncourt, alors qu'elle a 20 ans, elle est recensée comme poète.
Oui. Mais, on pouvait être recensée comme poète.
On pouvait être recensée comme
de
poète.
De profession.
Voilà.
Bon.
Mais, la poésie, ça ne fait pas vivre son homme, si je puis dire, ou sa femme.
Mmh.
Et donc, sa mère aurait voulu qu'elle soit cuisinière. Bon, ça, il en était pas question. Et quand donc ses grands-parents sont morts, bon, elle a bien hérité de terre, mais elle était sous tutelle, il fallait qu'elle gagne sa vie,
mmh.
et la vie de sa mère d'ailleurs, et donc le métier qui lui convenait le mieux, puisqu'elle était instruite, c'était d'être institutrice. Donc elle a fait les cours normaux, puisqu'il n'y avait pas d'école normale de filles à l'époque. Elle est devenue institutrice. D'abord, elle est restée autour de chez elle, à Dolencourt, à Millières, mais elle n'avait qu'une envie, c'était de monter à Paris. Et donc, à 26 ans, elle est partie à Paris, elle est devenue institutrice à Paris.
Alors, quel était le contexte politique de l'époque et comment se situait Louise Michel dans ce contexte?
En 1956, on est sous le Second Empire.
Mmh.
C'est la partie autoritaire de l'Empire. Louise dira beaucoup dans ses mémoires plus tard qu'elle était extrêmement hostile à l'Empire, qu'elle veut empêcher ses fillettes de rester à l'église quand on faisait la prière pour Napoléon III. Bon, en fait, ça devait pas être si marqué que ça, parce que sinon elle n'aurait pas pu rester continuer son métier.
Hein. Elle était déjà fichée par la police.
Non, elle n'était absolument pas fichée. Au contraire, le recteur disait que c'était bon, un esprit un petit peu exalté, mais que c'était une très bonne enseignante.
D'accord.
Et elle a eu d'ailleurs des lettres de recommandation à ce moment-là pour aller à Paris, mais même pendant la lors de son procès après la Commune, ses anciens, le recteur notamment, qui supervisait son école quand elle était à Audelancourt, a écrit pour dire que c'était une bonne institutrice et qu'à l'époque, elle n'avait pas d'idée
révolutionnaire. D'accord.
Donc, c'est à Paris où elle a... elle était déjà quand même pour les misérables, elle demande qu'on ouvre une caisse pour les pauvres, elle a toujours été attentive aux pauvres, tout enfant, et ça allait très bien d'ailleurs avec sa foi chrétienne. Hein,
oui. Bon.
Mais elle s'en est éloignée parce qu'elle s'est aperçue que, finalement, tout ça, elle a réfléchi.
Il y avait un ordre politique derrière.
La pauvreté,
il y avait une injustice.
Voilà, une injustice. Oui. Et quand elle est montée à Paris, elle a d'abord été sous maîtresse, puis elle a ouvert sa propre école, elle a commencé à fréquenter les milieux républicains.
Voilà, est passée de l'église à Blanqui, en quelque sorte, à la libre pensée.
Absolument, parce que Blanqui a été vraiment là aussi pour elle une figure
un phare,
tutélaire. Oui, complètement.
Et donc, le Second Empire s'effondre, 1870, le siège de Paris, et puis la Commune.
Et la Commune.
Alors,
donc,
c'est là qu'il se passe quelque chose.
Voilà, alors là, elle est exaltée, elle pense que la Commune va enfin remettre la vie, ça va être vraiment un monde de justice, évidemment, et c'est l'échec.
Une sorte d'apocalypse bénéfique, quelque sorte.
En quelque sorte, oui, d'ailleurs, elle est très sensible au rythme de la nature et elle identifie les rythmes révolutionnaires à ceux de la nature, à des cyclones, surtout après quand elle partira en Nouvelle-Calédonie. Et donc, elle est déçue, évidemment, par la Commune. Et donc, elle dit, si les hommes de la Commune n'ont pu rien faire, c'est que le pouvoir est mauvais. Donc,
tout pouvoir,
quel qu'il soit.
Alors, et c'est là où on voit se pointer l'anarchisme dans la pensée de Louise Michel.
Voilà, c'est là qu'elle va aller vers l'anarchisme. Alors, elle dit qu'elle s'est convertie à l'anarchisme alors qu'elle était sur le bateau qui l'amenait en Nouvelle-Calédonie, où elle était déportée.
Oui.
Bon, c'est peut-être un chemin un peu plus compliqué, mais enfin, ce qui est certain, c'est que quand elle rentre en France en 1880, après l'amnistie des communards, elle est anarchiste.
Alors, il faut peut-être préciser une sorte de fait d'armes, en quelque sorte, c'est que à l'issue de la Semaine sanglante, elle n'est pas prise par les troupes de Versailles, elle n'est pas arrêtée, mais elle va se livrer à la place de sa mère.
Tout à fait.
Une forme d'héroïsme là-dedans.
Ah, complètement. Et son amour pour sa mère, qui jusqu'au bout a été, je dirais, exemplaire. Hein. C'est un amour filial extraordinaire. Oui, sa mère a été arrêtée à sa place puisqu'on ne la trouvait pas. Et quand elle apprend ça, ben, elle va voir au poste de police, elle dit non, vous libérez ma mère et moi je prends sa place.
Et donc elle savait qu'elle risquait sa vie.
Oui, alors que sa mère aurait pu, on ne sait pas, hein, dans ces temps, je dirais, on fusillait un peu n'importe qui, aurait pu être libérée. Donc là, elle part, elle est internée à Versailles, et puis c'est ce fameux procès, parce qu'en fait, ce procès, c'est ce qui va vraiment la propulser, je dirais, sur la scène politique.
Oui, sur la scène publique.
Voilà, parce qu'elle adopte une attitude intransigeante, elle s'accuse, elle dit « si on ne me tue pas, eh bien je continuerai la lutte jusqu'au bout ».
Elle refuse d'être graciée.
Elle refuse d'être graciée. Et elle refuse même une peine légère, elle demande la mort.
Qu'est-ce qui, à votre avis, Marilyn Bella, qu'est-ce qui anime Louise Michel dans ce moment-là?
Alors, il y a quand même un fait important, c'est qu'elle était amoureuse, ça a été le seul grand amour de sa vie, une des têtes pensantes de la commune, qui était Théophile Ferré.
Théophile Ferré,
qui lui a été convaincu d'avoir participé aux incendies, notamment au ministère des Finances. Lui avait été, elle a tout fait pour essayer de le sauver, elle a même demandé à Hugo d'intervenir, il n'a pas voulu. Et il a été exécuté peu de temps avant qu'elle-même passe en jugement. Et là, c'est vrai qu'elle traverse une période dépressive où c'est vrai qu'elle a envie de mourir. Voilà. Donc je pense que cet aspect personnel a joué aussi un rôle dans son attitude lors du procès.
Alors vous évoquez Victor Hugo, Marilyn Bella. Quelle était la nature de la relation entre Louise Michel et Victor Hugo?
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on a beaucoup de, je crois que c'est une trentaine, je ne voudrais pas dire de bêtises, de lettres de Louise à Victor Hugo, on n'a pas les réponses.
Ah oui.
C'est bien dommage. Malgré tout, dans le courrier, on voit bien qu'effectivement, il répondait. Et puis, il est intervenu à plusieurs reprises quand elle a été arrêtée pour la faire sortir de prison ou du poste. Et puis, donc jusqu'au bout, hein, il a été un être important pour elle. Alors d'abord, il a été important pour elle parce que c'était le poète. Et d'ailleurs, la poésie de Louise est très inspirée de la poésie de Victor Hugo.
D'accord.
C'est indéniable. Bon.
C'est un phare intellectuel pour elle.
Voilà, c'est un phare intellectuel. Maintenant, elle dit même que quand elle était en Nouvelle-Calédonie, elle a gravé sur un rocher quelques vers de Hugo.
Vous les avez retrouvés?
Non. Ça fait peut-être partie de la légende.
Ouais.
Bon, en tout cas, effectivement, vous savez que Hugo, après son... Donc, a été exilé, hein, enfin, nous dire ça,
à Guernesey.
Et Hugo, quand il est revenu progressivement, eh bien, il est devenu un personnage installé, je dirais, de la Troisième République. Donc, il a en quelque sorte un peu trahi la cause. Donc, Louise ne l'a jamais dénoncé, mais c'est vrai qu'elle s'en est éloignée. Et lors de son enterrement, elle est à ce moment-là emprisonnée, donc elle n'a pas pu y aller. Elle s'est insurgée contre justement des risques de discours qui seraient de droite, dirons-nous. Mais elle dit bien qu'à ce moment-là, le lien, même si elle le respecte beaucoup, le lien affectif est...
On peut rappeler que l'enterrement, les obsèques de Victor Hugo ont été quelque chose d'absolument hallucinant.
Ah oui, complètement.
Centaines de milliers de personnes qui ont envahi les rues de Paris pour lui rendre hommage. Alors, Louise Michel, quelle était, Marilyn Bella, quelle était sa vision politique? S'agissait pour elle de promouvoir une forme de démocratie directe, le mandat impératif, la destruction de l'appareil d'État.
Oui, alors complètement.
Elle va très loin.
Elle va très loin. Ouais. C'est l'anarchie pure. Bon, c'est pas une grande théoricienne, c'est assez simple. Hein. D'ailleurs, elle est très répétitive dans ses interventions puisqu'elle parle beaucoup. Elle écrit, elle parle beaucoup. Donc l'État est mauvais, donc il faut détruire l'État.
Tout État, qu'il soit de droite,
État,
de gauche.
Il n'y a pas de distinction à faire. Tout État est mauvais. Ouais. Il faut le détruire par une révolution totale.
La table rase
complètement. Il faut donc la grève ponctuelle ne sert à rien. Il faut une grève générale qui embrase, disons, le monde. Ensuite surgira, on ne sait pas trop comment, un monde nouveau. Fait d'amour, où tous les hommes seront égaux, où ils n'auront plus de besoins, puisque tous leurs besoins seront satisfaits. Et alors, ce qui est intéressant, qui montre qu'elle est fille du 19e siècle, c'est que là, elle fait appel à la science. Parce qu'elle pense que grâce, justement, aux machines, on pourra avoir ce monde facile à vivre pour l'homme. Mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a aucune réflexion sur la façon dont sera organisé ce monde. Hein. C'est
d'accord.
Simplement.
Il faut rappeler que c'était avant Lénine,
oui,
avant les Khmers
Marx,
rouges,
mais enfin, il faut savoir
avant
aussi,
la mise en œuvre voilà. de cette vision du monde.
Oui,
même.
Oui, mais il y a eu la rupture d'ailleurs entre les marxistes
oui.
et les anarchistes, mmh. parce que les marxistes prônent évidemment la dictature du prolétariat, et elle dit non, non, non. Même
oui.
si elle a beaucoup, elle est beaucoup intervenue dans de nombreuses conférences aux côtés des socialistes, des marxistes, enfin de tous les groupes, parce qu'à cette époque-là, comme le dit Madeleine Rémy-Rioux, le socialisme est dans l'enfance. On a une
oui.
multitude de groupes
oui.
extraordinaires, et elle prône l'unité, même si chacun est différent.
Et puis le socialisme n'avait été mis en œuvre nulle part.
Voilà, absolument. Voilà. Voilà.
Sauf mais de façon très passagère pendant les 72 jours
est,
de la Commune.
Voilà, elle est ouais. très optimiste. C'est, mm-hmm. c'est intéressant aussi de voir
à la cette fois sombre et noire
oui,
et optimiste.
Sombre, voilà, elle est
oui.
les deux. Elle est
c'est
très
ça.
Sombre, elle appelle la mort tout le temps. La mort est un thème récurrent. Mm-hmm. Mais en même temps, elle est persuadée que ça arrivera. C'est une utopiste, hein, il faut dire
c'est
les choses.
C'est une utopiste.
C'est une utopiste.
Bon. Elle est persuadée également que tous les républicains sont des traîtres.
Ah bah, après
à cette
la Commune.
Là,
ah oui, oui.
oui.
Et surtout alors après, sous la Troisième République. Gambetta, par exemple,
c'est ce qu'on appelle un social traître.
Voilà, oui, oui.
Dans l'histoire
Pierre,
politique.
Après, il y a
alors, le séjour de Louise Michel en Calédonie a été très important. Elle a été déportée là-bas, donc. Elle y a passé combien de temps en tout, Marianne Bellac?
Plus de 7 ans.
Plus de 7 ans.
Plus de 7 ans.
Voilà.
Alors, elle était en enceinte fortifiée, parce que la Nouvelle-Calédonie a été un lieu de déportation avec tout type de mode de déportation, y compris un vrai bagne, mm-hmm. donc qu'on peut voir encore aujourd'hui,
oui.
enfin, en tout cas, d'ailleurs, en ce moment.
Oui, vous y êtes allé, hein, pour,
oui, oui, j'y suis allé,
retrouver
oui, j'y suis allé
traces.
Pour sentir, et puis parce que je voulais voir un certain nombre de choses, notamment sur les Kanaks,
mm-hmm.
qu'elle avait rencontrés, leurs descendants, et c'était passionnant, très intéressant.
Mm-hmm.
Et donc, elle est restée là-bas, donc dans cette enceinte fortifiée, les députés disaient, mais très sérieusement, de toute façon, on ne pouvait pas s'échapper de cet immense espace de 400
bah oui.
hectares parce qu'il était gardé d'un côté par la mer où il y avait les requins et de l'autre côté, c'était une presqu'île, hein,
mm-hmm.
Par les sauvages qui, de toute façon, auraient
ouais.
mangé les déportés qui s'échappaient.
C'était les Kanaks.
Voilà, les Kanaks.
Il faut rappeler que la France venait juste d'arriver.
Oui,
en
elle est arrivée au milieu du 19e
voilà.
siècle, hein, oui, complètement.
C'était quoi cette sorte de vie? C'était une sorte de phalanstère?
Alors, non, pas du
non,
tout.
Pas du
non,
tout.
Non, mais c'était, il y avait donc des habitats, des baraquements qui avaient été construits pour les déportés, il y avait un hôpital, il y avait une chapelle, il y avait à un moment un théâtre et une bibliothèque, et il y avait aussi des gens qui s'étaient mis un peu à l'écart, qui avaient construit leur propre logement parce qu'ils préféraient être près de l'eau.
Ouais.
Donc elle logeait en bas de l'hôpital dans un premier temps, et il y avait une vie entre les déportés. Quand elle est arrivée, on a fait la fête. Bon, alors ensuite il y a eu le problème, c'est que Rochefort a réussi à s'évader, c'est le seul évadé. Hein,
Henri
Rochefort, oui.
Voilà, l'une des grandes personnalités
voilà.
de la gauche.
Voilà.
Il s'est évadé.
Il a réussi à s'évader.
Ouais.
Alors après, on a éloigné Louise, dont quand même on se méfiait, et les femmes, un petit peu à l'écart dans la baie des Dames, qui est un endroit aujourd'hui idyllique, sauf qu'il y a du gaz, bon, mais ça...
Ouais.
et là, elles vivaient aussi, on leur a fait une espèce de cabane, donc on leur distribuait
d'accord.
des vivres pas très bons, hein. Mais elles lisaient beaucoup. Beaucoup,
alors,
beaucoup.
Qu'est-ce qu'elle a fait de ce séjour-là? Si on vous lit bien, Marilyn Bellac, Louise Michel a en quelque sorte vécu comme une sorte de retraite, elle a,
oui.
elle a élaboré une vision politique,
oui.
une vision...
Alors, elle s'est beaucoup intéressée au pays,
oui.
à la nature. Elle a fait des expériences, elle a herborisé. Elle s'est intéressée aux Kanaks. Au moins, elle a pu avoir des contacts avec eux, surtout ensuite quand elle a été à Nouméa. Elle a beaucoup lu, engrangé. Elle a beaucoup, sans doute, réfléchi. Et la Nouvelle-Calédonie, au-delà de la doctrine anarchiste, est devenue vraiment, je dirais, sa pierre d'attache intellectuelle. C'est-à-dire que justement, quand elle parle du monde, ce qu'elle appelle l'ancien monde, celui où elle vit,
ouais.
et du nouveau monde, elle compare tout le temps le phénomène qui va s'opérer à un cyclone. Il y a eu un énorme cyclone quand elle était là. Voilà.
Ouais.
Là, c'est le maître mot après, hein,
mm-hmm.
un cyclone qui renverse tout et qui permet à une nouvelle nature. Elle parle aussi du niaouli, ces arbres qui s'effondrent quand ils sont vieux d'un seul coup. Eh bien, elle dit, ce sera pareil, le monde nouveau.
Le vieux
pareil.
Monde va s'effondrer.
D'un seul coup.
Alors donc, au bout de 7 années de séjour, finalement, elle revient en France métropolitaine. Et vous écrivez, Marilyn Bellac, que Louise Michel devient le commis voyageur de l'anarchisme.
Oui.
Elle appelle à la grève des femmes, elle entame une carrière littéraire d'écrivaine, elle incarne la violence du verbe. En fait, on peut se demander, elle aurait pu rester inconnue. Qu'est-ce qui fait qu'à son retour...
Alors,
elle est devenue cette sorte d'égérie.
Alors, ce qui fait son... Donc d'abord, c'est que ce procès a quand même marqué quand elle est
oui.
partie. Ensuite, que quand elle vient de Nouvelle-Calédonie, elle a continué à écrire à ses amis et que ceux-ci l'ont pas oublié. Et puis surtout, la dernière année, alors qu'elle aurait pu être amnistiée, elle n'a pas voulu partir de Nouvelle-Calédonie tant que tout le monde, tous les communards ne seraient pas partis.
Solidarité.
Voilà, solidarité totale. Et ça, ça a été toujours. Et du coup, on voit les déportés qui rentrent en France, des fêtes qui sont organisées, toujours sous la présidence factice, puisqu'elle n'est pas là, bien sûr, de Louise. Et donc, il y a toute une presse et tout un mouvement, plus ces communards qui rentrent, enfin, c'est quand même un événement très important, ça a été long. Et donc, en faveur de Louise. Et donc, quand elle rentre finalement en urgence parce que sa mère est malade, ben, quand elle arrive, il y a plus de 10 000 personnes à la gare Saint-Lazare.
Et elle poursuit donc sa carrière de militante, elle donne des conférences.
Oui, là, elle commence vraiment une vraie carrière de militante, où elle donne parfois plusieurs conférences par jour. Elle parcourt la France.
Elle en vit du reste.
Elle en vit très mal, parce qu'en fait, ça finance là encore tous ces groupes, c'est très complexe, parce que... Louise se contente de peu, dès qu'elle a un peu d'argent, elle le donne.
Elle mange du
pain, elle boit du café, beaucoup de café, mais c'est pas une femme qui cherche comme Marie-Antoinette à être belle.
On va en parler. On va demander dans un instant à Charles Loviel son regard sur Louise Michel. Et puis donc sa vie continue. Elle est confrontée à un certain nombre d'évolutions politiques de la Troisième République, le boulangisme, une vague de terrorisme. Il faut rappeler que nos aïeux également ont été confrontés, ont connu à un terrorisme extrêmement violent. Comment elle se situe dans cette Troisième République-là ?
Alors, elle se situe, elle garde son discours, elle est assez prudente dans certaines affaires. D'abord dans le boulangisme. Elle finit par dire...
Il faut rappeler que c'est une forme de populisme.
Voilà. Oui, et elle estime que bon, boulanger peut être utile, mais enfin qu'il n'a aucun intérêt. Il peut être utile à renverser le système, mais qu'il n'a aucun intérêt. Quant à l'affaire Dreyfus, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, justement, il y a une partie de ses amis, et notamment Rochefort, qu'il a financé toute sa vie, il faut le dire, qui sont anti-Dreyfusards, d'autres qui sont Dreyfusards, donc elle évite de se prononcer, elle dit qu'elle est elle est contre l'antisémitisme, mais ça va pas plus loin.
Elle est prudente, elle est à la fois violente et prudente.
Voilà, elle est violente et prudente. Ouais. Et alors, par contre, ce qui est plus là où elle reprend, je dirais, elle se retrouve à l'aise, c'est que quand la vague d'attentats a lieu en France en 1892, 91, même 94, avec Sadi Carnot, quand même, le président de la République, est assassiné, donc c'est important.
Le terrorisme ne date pas d'aujourd'hui.
Elle s'est exilée à Londres.
Oui.
Alors là, elle est beaucoup plus libre de ses mouvements. Mm-hmm. Donc elle approuve totalement ces actes terroristes, en disant qu'après tout c'est bien parce que seulement ceux qui sont impliqués dans le meurtre seront punis, et que alors qu'au même moment il y a un certain nombre d'anarchistes qui commencent à dire ça c'est pas bon pour nous, pour notre image. Vous voyez, elle se sépare.
Elle est toujours à part, en fait.
C'est quand même très particulier.
Quand on vous lit Marie-Hélène Bellac, on se dit que on prend conscience du fait que Louise Michel n'a jamais été élue nulle part. Elle s'est jamais présentée à aucune élection.
Elle voulait pas. Elle était contre.
Voilà, elle était évidemment contre le système
parlementaire,
le système électoral. Oui. Elle était militante, en fait, elle était militante d'elle-même, mais d'aucun parti, si ce n'est d'une forme d'anarchisme utopique.
Elle se mettait à la disposition des partis, mais
C'était en quelque sorte une marque, Louise Michel.
Oui.
C'est resté une marque pour la gauche.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que la fabrique de l'histoire en a fait quelque chose d'important pour la gauche, Marie-Hélène?
Alors, d'abord, je crois que c'est très important, comme vous dites, qu'elle soit restée une marque, parce que on peut l'utiliser plus facilement que quelqu'un qui serait impliqué dans
un peu comme Jeanne d'Arc, on peut en faire ce qu'on veut.
Bon. Alors ensuite, en fait, après sa mort, elle a été un petit peu pas oubliée, mais enfin on en a moins parlé, mais surtout les communistes, quand le Parti communiste est né, les communistes ont récupéré parce qu'ils ont récupéré la commune, donc du coup elle était la grande figure de la commune. Puis après 45, ils l'ont récupérée comme la première militante contre l'Allemagne, puisqu'il y avait la guerre contre la Prusse en 1870. Bon. Quand le Parti communiste a commencé à décliner, ce sont les socialistes, toujours les anarchistes, bien sûr, qui étaient en contradiction,
qu'on leur avait volé
Louise Michel.
La gauche radicale, comme on
dit
aujourd'hui.
Mais après, quand la commune est rentrée, je dirais, dans notre histoire, notamment dans les années Mitterrand, elle-même y est rentrée, elle est devenue une égérie du féminisme. Mmh. Hein, des gens comme Ségolène Royal ou d'autres. Ah oui. Aubry,
est-ce que Sandrine Aubry, Rousseau en parle aujourd'hui? Est-ce que Mathilde Panot en parle aujourd'hui?
Je ne crois pas. Enfin, je n'ai peut-être pas assez écouté.
Il y a peut-être des échos.
Il y a peut-être des échos, mais il y a des libertaires actuellement qui écrivent sur elle.
Oui. Hein, bon,
donc, puis alors maintenant, on dit elle est queer. Vous voyez,
carrément.
Oui, oui.
Ah oui, donc
oui,
c'est dire son polymorphisme,
voilà,
c'est
complètement,
ça.
Complètement.
Chacun peut la mettre à sa sauce, en fait.
Un peu, oui.
D'accord.
Oui, oui. C'est un personnage étonnant. Enfin, je pense que ça vaut le coup de connaître
exactement
sa vie et son action.
Alors, je me tourne vers Charles-Éloi Vial. Alors, vous, évidemment, on va parler dans un instant de Marie-Antoinette, puisque c'est pour ça que vous êtes notre invité. Mais vous qui travaillez beaucoup sur le 19e siècle, au fond, qu'est-ce que Louise Michel, à vos yeux, Charles-Éloi Vial, nous dit de ce 19e siècle?
Alors déjà, j'ai écouté Marie-Hélène avec énormément de plaisir, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir... Enfin, il y a des parallèles quand même avec Marie-Antoinette qu'on peut dresser.
Risquez-vous.
Bon, déjà, un engagement politique pour les deux, l'expérience de la prison, c'est quand même quelque chose de frappant, mais même si elles ne le vivent pas de la même façon. Et puis aussi cette façon d'avoir été diabolisée par des adversaires politiques, donc elle... Louise Michel, plutôt par la droite, qui la présente comme un démon, une incendiaire. On a la même chose avec Marie-Antoinette, les caricatures qui la présentent par les révolutionnaires comme d'abord comme une femme débauchée à la fin de l'Ancien Régime, puis après comme quelqu'un de sanguinaire, de violent, de dangereux. Donc il y a quand même ce même...
Les femmes sont toujours hystériques dans la vision politique.
Il y a un peu de ça, exactement. Il y a un peu cette idée aussi, cette vision un peu machiste. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et après, de voir la façon dont... Enfin, la plasticité de la mémoire du personnage, façon dont on en fait ce qu'on veut.
C'est ça.
Et aussi la façon pour Marie-Antoinette dont on la dépolitise petit à petit. Donc on oublie cette dimension de sa vie pour la réduire à une légende qui est plutôt une légende très romantique, très individualiste aussi, basé sur la femme, sur ses histoires d'amour, sur ses sentiments. Et on oublie cet aspect. C'est aussi une façon de simplifier le personnage. Et ça n'est pas lui rendre hommage que d'oublier qu'elle a eu des intérêts pour la politique, qu'elle a eu une petite carrière politique, des idées, des ambitions.
Ouais.
C'est vraiment gommer tout un aspect de sa personnalité. Donc c'est intéressant de voir, pour les deux, on a des mythes, on a cette diabolisation, puis cette simplification,
la
façon dont on les transforme en mythe dans la postérité, exactement.
Marie-Hélène Bellac, que reste-t-il aujourd'hui de la figure politique de Louise Michel ?
Ben, il reste 190 établissements. Il reste 190 établissements en France qui portent son nom, établissements scolaires.
Scolaires. Oui, oui. C'est fascinant quand même.
Oui, oui, beaucoup de collèges.
Ouais, beaucoup de collèges.
Oui.
À quel titre, à votre avis ?
Ben parce que
compte tenu de ce que vous avez travaillé sur
alors
sa
c'est surtout justement
parce que c'était
des
une institutrice.
Communes, c'est des communes de gauche. Ouais. Alors à la fois parce que c'était une institutrice, c'est une institutrice novatrice. On n'a pas eu
c'est
le
ça,
temps de le dire.
Une sorte de Maria Montessori avant l'heure.
Voilà exactement. Ouais. Et puis bon parce que c'est ce qu'on disait, une image d'une femme forte, rigoureuse avec elle-même.
Donc on souhaite la donner en exemple.
Voilà. Et puis il faut pas oublier que jusqu'à une date très récente, il y avait que une station de métro qui avait un nom de femme. À
et
Paris,
c'était
et c'était la station Louise Michel, voyez. Donc bon, alors les gens la connaissent pas, c'est pour ça que je trouve que ça vaut le coup de la connaître, parce qu'elle, c'est un nom, mais c'est tout, voilà, souvent pour beaucoup de gens.
Et grâce à vous, Marie-Hélène Bellac, c'est plus qu'un nom. Je rappelle le titre de votre biographie très simple, Louise Michel, c'est chez Perrin.
Les racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier, nous accueillons aujourd'hui deux historiens, plus précisément une historienne et un historien, autour de deux figures féminines, l'anarchiste Louise Michel, dont nous venons de parcourir la vie, et puis la reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, dont la biographie vient d'être publiée chez Perrin par Charles-Éloi Vial, qui est aujourd'hui avec nous. Alors, Charles-Éloi Vial, avant de parler de Marie-Antoinette, je voudrais vous faire écouter un extrait sonore, parce que vous dites vous-même en ouverture de votre livre qu'il y a eu plus de 400 biographies, donc il fallait du courage de votre part pour s'intéresser à Marie-Antoinette, mais il y a surtout des tonnes et des tonnes de clichés, d'a priori, de fantasmes. Vous dites que la vie de Marie-Antoinette est une somme de plusieurs générations de fantasmes et de réécritures. Alors, on va écouter l'un de ces fantasmes, simplement, c'était en 1956, la comédienne Michel Morgan, qui incarne Marie-Antoinette, reine de France, c'était un film de Jean Delannoy. Et on va voir comment, de quelle façon donc Michel Morgan présente Marie-Antoinette.
Silence ! Silence ! Une reine va vous parler. Une reine vous parle.
Oui, c'est vrai. Une reine vous parle. Enfin, c'est presque vrai. Car pendant des mois et des mois, j'ai oublié qui j'étais pour m'habiller, agir et penser en reine. La dernière reine de France à avoir porté ce titre. J'en avais même oublié mon nom. À ce propos, permettez-moi de me présenter, Michel Morgan. J'ai eu en effet l'honneur d'incarner Marie-Antoinette dans le film que je viens de terminer. Film qui retrace les moments essentiels de cette existence extraordinaire. Une archiduchesse d'Autriche, passant de l'austère Schönbrunn au palais de Versailles, puis aux Tuileries, et finissant sur l'échafaud. Film historique, dans la mesure où il ne montre que des événements vrais, mais surtout humains, car ces événements sont constamment observés à travers les émotions d'une femme. Aucune œuvre d'imagination ne pourra être aussi passionnante que la réalité scrupuleusement reconstituée. Cette période capitale de notre histoire, les derniers jours de l'Ancien Régime, la naissance de la Révolution. Les extérieurs ont été tournés sur les lieux mêmes de l'histoire. Versailles, le Petit Trianon, Varennes. Certaines prises de vue ont été d'ailleurs autorisées pour la première fois. Les scènes ont été minutieusement reconstituées d'après les textes, les mémoires, les témoignages de l'époque. Certaines répliques pourront vous paraître invraisemblables, c'est qu'elles sont vraies. Quant à la réalisation, elle a été confiée à Jean Delannoy. Et maintenant, voici les principaux acteurs de la tragédie. D'abord Louis XVI, mon mari. Excusez-moi, en le revoyant, je me croise encore Marie-Antoinette. Louis XV, son grand-père qui avait tant d'indulgence pour moi.
Voilà, c'était Michel Morgan qui, en 1956, donc, a incarné dans un film de Jean Delannoy, qui a incarné Marie-Antoinette, reine de France. Dans cet immense millefeuille de la mémoire de Marie-Antoinette, Charles-Éloi Vial, ça se resitue facilement, cette incarnation par Michel Morgan.
Oui, alors là, on est plutôt dans la légende. Oui. Un des aspects de la légende au XXe siècle, je dirais peut-être plutôt une légende qui privilégie la reine,
oui.
Le côté majestueux, la dignité de l'ancien régime, peut-être plutôt que la femme, qui est plutôt la vision de Stefan Zweig, on s'intéresse oui. plutôt aux sentiments,
dans
à l'histoire d'amour,
biographie,
dans
oui.
sa fameuse biographie. Mm-hmm. Donc là on a une vision peut-être plus erratique, on voit la façon d'ailleurs la diction de Michel oui. Morgan qui est absolument magnifique.
Qui est très datée.
Donc, qui est oui. très datée mais très belle. Donc c'est peut-être plutôt... Peut-être plutôt une vision de la reine, donc une vision de la souveraine qu'on resitue dans des grands événements historiques. Donc c'est pas l'histoire très personnelle, très anecdotique, qui est celle que l'on préfère, je pense, aujourd'hui. Mais après, ce qu'elle dit aussi sur la façon dont elle a vécu le rôle, dont elle finit par se prendre pour Marie-Antoinette, ça nous montre aussi que Marie-Antoinette est un personnage qui est construit, constamment reconstruit. Elle a dû construire une image
et reconstruire
ensuite,
au fil du
mais,
temps.
Mais on voit que c'est ça son interprétation. Reconstruire une vision qui correspond aussi à celle du réalisateur, je pense, mais d'où la difficulté d'arriver ensuite au véritable personnage.
Alors,
il est caché.
Oui, il est caché, et donc on va essayer avec vous, Charles-Éloi Vial, de remonter un peu à ce véritable personnage. Vous avez eu accès à des archives, je crois, tout à fait singulières pour construire votre biographie. Vous avez découvert des choses.
C'est la démarche de l'historien, mais voilà. Marie-Hélène a fait la même chose. Oui. Essayer de trouver des documents inédits, des témoignages qui n'ont pas été publiés. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire par chance. Enfin, mon métier de conservateur
m'aide
un petit peu. Donc, trouver notamment des nouvelles à la main, donc des journaux, manuscrits de l'époque, des documents comptables de la maison de la reine. On n'a pas tout vu et il y a parfois des petits détails très personnels, les couleurs qu'elle aime, ce qu'elle aime manger. Enfin, sont parfois des petites choses. Et enfin également des lettres. Et j'ai eu la chance de retrouver le journal intime du maréchal de Castres qui n'a pas été publié, donc qui est ministre de la marine de Louis XVI et qui note ses conversations avec Marie-Antoinette durant plusieurs années.
Et où dormait ce...
Alors il est aux archives nationales, simplement il n'a pas encore été publié.
Mais personne ne s'y était intéressé.
C'est un fonds très vaste, le fonds de Castres, donc il faut le retrouver. Mais ça c'est ce genre de coup de chance qui aide beaucoup un biographe et qui vous donne accès au personnage, parce que là on entend sa voix, donc il a priori pris les notes juste après les conversations, on a vraiment la voix du personnage, qu'on a assez peu, surtout pour Marie-Antoinette avec cet aspect de reconstruction, on a plutôt des expressions qui ont été réinventées, réécrite. On parlait de Rochefort tout à l'heure. Il y a cette fameuse qui mange de la brioche. On le retrouve dans les journaux d'Henri Rochefort, notamment au XIXe siècle. Donc des expressions,
des paroles qui ont été prêtées à Marie-Antoinette,
qui sont inventées,
qui sont souvent apocryphes. Du reste, si on vous lit bien, Charles,
quasiment toutes apocryphes. Oui, c'est ça qui est intéressant.
Alors donc Marie-Antoinette est réputée, on le sait, c'est l'Autrichienne, la souveraine dépensière hypocrite, la bergère de Trianon, puis la veuve Capet, puis la reine martyr. À vos yeux, quel aspect faut-il privilégier dans cette sorte de millefeuille des rumeurs qui ont couru sur des images qui ont couru sur la vie de Marie-Antoinette? Vous dites que c'était une fine politique, amoureuse sincère, habile diplomate.
Alors, pour moi, l'aspect qu'il faut privilégier en premier, c'est celui qui a été le moins creusé.
Allez-y.
Donc, pour moi, c'est plutôt la femme politique, précisément. Donc, grâce à ce journal du maréchal de Castres et puis à d'autres documents, quand on porte un autre regard sur les documents de l'époque, on arrive à déceler quelques petits détails. Donc, je me suis plutôt intéressé à cette vision que Marie-Antoinette avait de la politique, cet intérêt qu'elle avait pour la politique, pour la diplomatie d'abord, puis ensuite, de plus en plus, pour la politique intérieure. Et on voit qu'elle s'intéressait aux affaires. Elle n'était pas repliée sur elle-même avec ses dames de compagnie à jouer à la bergère. Au contraire, elle essaie de voir les ministres, elle essaie de consulter les dossiers, elle essaie d'avoir des informations du roi. Donc elle s'intéresse vraiment à la politique et petit à petit, elle développe une vision politique qui n'est pas très construite. Elle n'a pas beaucoup lu, elle ne sait pas...
Elle a été assez peu éduquée.
Elle a été assez peu éduquée, elle n'a pas non plus complété ou comblé ses lacunes par la suite. Mais on sent qu'à partir de la Révolution... Elle a quand même une vision qu'elle essaye de suivre, qui est un peu différente de celle de son mari.
Ah oui.
Il y a deux lignes politiques, on va dire. D'un côté, on a un Louis XVI qui est très cultivé, qui connaît bien la culture anglaise et qui comprend vers quoi la Révolution commence à partir, c'est-à-dire la mise en place d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. C'est quelque chose qui.
Et donc il s'y prête, d'une certaine façon.
Il est prêt à l'accepter tant qu'il contrôle le processus. Ouais. C'est là que le bas blesse, c'est qu'avec l'emballement, très vite, la prise de la Bastille.
Ça va lui échapper.
Tout lui échappe, mais on le voit avec son discours aux États généraux le 23 juin 1789. Il est prêt à accepter une évolution de la monarchie vers quelque chose d'autre. Mm-hmm. Marie-Antoinette est beaucoup plus arc-boutée sur le passé. Elle refuse ce genre d'évolution. Pour elle, tout ce qui est nouveau, finalement, est dangereux. Et pour elle, sa véritable vision politique, c'est de rester sur la monarchie telle qu'elle était, donc la société des privilèges, la monarchie d'Ancien Régime.
Elle serait plutôt du côté de son beau-frère qui deviendra Charles X.
Voilà, elle est plutôt du côté de Charles X. D'ailleurs, on voit, il peut y avoir des parallèles aussi avec Charles X, ou même à la limite avec Louis XVIII en 1814, quand Louis XVIII commence à reconstituer la maison du roi telle qu'elle existait, non pas en 1789, mais en 1787, parce qu'il n'y avait pas eu les premières réformes. Quand Charles X commence à dire en 1830 que les députés doivent donner simplement des remontrances au roi, donc on a cette tentation du retour en arrière.
D'arrêter le temps.
Voilà, et chez elle, elle est très forte.
D'accord. Alors il faut rappeler que Marie-Antoinette arrive en France, d'une certaine façon, porteuse d'un projet politique, c'est ce fameux retournement des alliances, les Habsbourg et les Bourbons catholiques face à la Grande-Bretagne et à la Prusse protestante. Et son mariage signifie cela.
Oui, alors son mariage scelle ce renversement des alliances avec la constitution de cet axe Paris-Vienne. Mm-hmm. Effectivement, deux monarchies catholiques qui sont alliées face à la Prusse, l'Angleterre, qui sont plutôt protestantes, mais elle ne le comprend pas. Elle ne comprend pas vraiment les enjeux.
Elle a 14 ans. Pas très éduquée, elle a 14 ans. Elle rentre dans ce tube-là, en quelque sorte.
Voilà, et pour elle, c'est à son corps défendant qu'elle incarne cette alliance. Mm-hmm. Tout ce qu'on a dû lui dire, probablement, comme ça avait été le cas plus tard pour Marie-Louise avec son mariage avec Napoléon, c'est que son union permet de préserver la paix et donc d'épargner des vies. Ce qui, pour une archiduchesse très dévote, très pieuse, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et c'est une idée qu'elle va garder sa vie durant. Mmh. Et ça explique aussi ses réticences face à la Révolution. Il y a une rupture qui s'amorce entre la France et l'Autriche avec la Révolution. Pour elle, c'est quelque chose d'inenvisageable parce que la rupture va signifier la guerre, des morts. Donc elle essaie de protéger cette alliance le plus possible.
Alors il faut signaler que lorsqu'elle arrive à Versailles à 14 ans, le terrain est miné puisque la cour est opposée à cette alliance.
Oui, la cour est opposée à l'alliance, est opposée à la politique que mène Louis XV, et immédiatement elle va être détestée. Elle incarne l'Autrichienne dès le début. Elle avance en terrain miné. Et pour elle, c'est extrêmement difficile d'arriver à Versailles, puisqu'elle ne comprend pas les enjeux politiques.
Voilà.
Elle ne comprend pas la tradition de la cour, qui est extrêmement différente. Elle ne comprend pas ce qui est à l'œuvre. Elle ne comprend pas qu'en réalité, dans les salons de Versailles, chez les filles de Louis XV, par exemple, tout le monde lui en veut, mais aussi tout le monde fait de la politique et les enjeux politiques se jouent là, dans les salons, entre les courtisans. Donc elle ne comprend pas vraiment. Il y a la distinction entre d'un côté le gouvernement et de l'autre côté la vie de cour est beaucoup moins claire qu'elle était à Vienne.
Et alors, vous écrivez, Charles Loivial, que cette cour était en elle-même vénale, irréformable, déficitaire, et que la crise de cette dette exorbitante devenait absolument insoluble. C'est-à-dire que le drame était inscrit dès l'arrivée de Marie-Antoinette, en quelque sorte.
Alors, on va dire plutôt que dès l'arrivée de Marie-Antoinette, les choses sont quand même assez mal engagées.
Voilà, c'est
alors,
ça.
Il faut distinguer du point de vue de la cour et la dette, qui sont des choses très différentes,
d'accord,
puisque les dépenses de la cour sont certes assez conséquentes, mais ça n'est pas ça qui précipite la France dans le déficit, c'est plutôt les dépenses militaires. C'est ça qui
le soutien
la dette.
À l'indépendance américaine,
notamment, et puis avant la guerre de 7 ans. Donc, c'est plutôt ça.
Donc, nous sommes au bord du gouffre, financièrement.
On est déjà au bord du gouffre financier, et les propositions de réforme et de simplification de la Cour s'entassent sur le bureau du ministre de la Maison du Roi depuis des décennies. On en retrouve aux archives nationales. Il y a des piles, et ça s'empile d'année en année.
C'est un peu comme aujourd'hui.
Après, ce ne sont pas les mêmes types de réformes.
C'est
plutôt simplifier le cérémonial, dégraisser le personnel, réduire le nombre de résidences royales. Donc, ce sont des propositions.
Et Marie-Antoinette ne va pas dans ce sens-là.
Elle
dépense beaucoup.
Elle dépense beaucoup parce qu'elle a
Vous l'avez vérifié, Charles.
Elle a un devoir de représentation.
Oui.
Elle dépense quand même beaucoup. Après, il faut aussi bien voir qu'on est dans une période d'inflation. Donc, comme l'inflation est très forte, mécaniquement, ses dépenses vont augmenter pour suivre l'inflation. Donc, elle est certes dépensière, mais peut-être pas plus que ses devancières, ou à peine plus, on va dire. Mais il y a on est un peu faussé à cause de l'inflation. En tout cas, elle finit par se rallier à cette idée que la Cour doit être réformée et simplifiée. Très tardivement, à la toute fin de l'Ancien Régime, elle accepte des simplifications dans sa maison, tout comme Louis XVI. Donc elle finit par se rallier quand même à cette idée, puisqu'on est dans un contexte de crise, très clairement. Elle veut montrer l'exemple, elle est aussi dans son rôle de souveraine. Et comme elle s'intéresse de plus en plus aux affaires politiques, elle comprend qu'il y a un problème, qu'il y a un véritable problème de ce côté-là. Elle le comprend mieux que ses courtisans.
Elle voit les nuages noirs s'accumuler.
Elle les voit s'accumuler. Et elle est sans doute assez pessimiste à ce moment-là. Et au sein de la cour, je me souviens, quand on le lit dans certains journaux intimes, début 1789, on se dit encore à Versailles que c'est pas la peine de convoquer les états généraux pour quelque chose d'aussi peu important que le déficit.
Voilà. Alors vous écrivez, Charles Éloi Vial, dans votre biographie donc de Marie-Antoinette, publiée chez Perrin, que à une date très précise, le 6 octobre 1789, Marie-Antoinette désacralise la monarchie. Que s'est-il passé ce jour-là, Charles Éloi Vial ?
Alors, le 6 octobre 1789, c'est le jour où le château de Versailles est envahi, donc on est au tout début de la Révolution. La foule s'est massée devant le château.
Dans
la cour de marbre, les Parisiens réclament du pain. Et le château va être envahi par quelques émeutiers. Il va y avoir quelques gardes qui vont être tués. Marie-Antoinette va avoir extrêmement peur. Elle va chercher à rejoindre sa famille, à rejoindre son mari. Donc là, on a le moment où l'on passe de la reine, qui est protégée par l'étiquette, à la femme. Simplement la femme, la mère de famille, qui est isolée, qui est plus vraiment défendue.
La mère courage.
Aussi la mère courage, puisque ça va être une mère extrêmement courageuse. Il faut le reconnaître. Mais de ce côté-là, on a la perte de sacralité. On n'a plus que le roi qui est un symbole. Et elle va se retrouver un peu l'accessoire de son mari. Le statut de la reine va perdre en importance au début de la Révolution. Ça n'est plus que l'épouse du premier fonctionnaire de la nation. Et en définitive, avec cette invasion qui était complètement impensable auparavant, cette invasion de la résidence royale, on a une perte de la sacralité absolument complète, et la monarchie est nue. Le roi et la reine sont ramenés de force à Paris et
ils quittent Versailles pour n'y jamais retourner.
Ils n'y retournent plus jamais.
Donc la chute de l'Ancien Régime, c'est ce jour-là en quelque sorte.
La véritable chute, la chute de la monarchie est plus tard, c'est la prise des Tuileries le 10 août 1792, mais la chute de l'Ancien Régime, le véritable moment où il y a cette rupture des amarres, où l'on sépare la monarchie de son cocon versaillais, c'est bien le 6 octobre.
Ou de son substrat en quelque sorte.
Voilà,
c'est plus qu'un cocon.
C'est ce qui avait fini par l'incarner en quelque sorte.
D'accord. Alors, quel va être le rôle ensuite de Marie-Antoinette dans les mois et les années qui vont se dérouler, donc aux Tuileries? Est-ce qu'elle va être conspiratrice? Vous écrivez, Charles Éloi Vial, que finalement son objectif aurait pu être la formation d'une ligue des monarchies étrangères.
Alors, comme je disais tout à l'heure, elle est sur une ligne qui est plus radicale que celle de son mari. Oui. Elle est plus réactionnaire que réellement conservatrice. Et elle va tâcher de lutter contre la Révolution en établissant des correspondances avec l'étranger. Donc là, on a un réseau de correspondants, donc avec les capitales étrangères, que ce soit Vienne notamment, Berlin, Madrid, Naples. Donc elle envoie des agents avec des messages. Et son idée au début, c'est effectivement de faire une coalition de souverains, mais pour faire pression sur l'Assemblée nationale, pas pour faire la guerre, simplement que l'on fasse pression sur la France révolutionnaire pour qu'elle rende la plénitude de ses pouvoirs au roi. Donc pour elle, c'est encore...
C'est encore possible.
C'est encore quelque chose de possible, mais encore quelque chose qui doit être pacifique. Mm-hmm. Même si la pression peut éventuellement être militaire avec des levées de troupes, on voit la même chose au moment de la fuite à Varennes, donc quand elle se réfugie, ou elle cherche à se réfugier à la frontière avec son mari, l'idée c'est de faire pression, ça n'est pas de faire couler le sang.
C'est aussi de passer la frontière.
C'est de passer la frontière, de rester en tout cas dans cette place forte de Montmédy, qui est une place forte frontalière, donc de ne pas quitter la France, de rallier des troupes françaises fidèles, de recevoir des troupes autrichiennes en renfort, et là, d'attendre, de faire pression. Donc pour elle, il n'y a pas encore d'idée de violence. La violence vient seulement plus tard. Elle finit par s'y résoudre, comme Louis XVI, à la fin de l'année 1791, début de l'année 1792. C'est la révolution veut la guerre, et elle finit par se résoudre à cette option, puisqu'elle est convaincue, comme Louis XVI, que la révolution va perdre la guerre, que là, ils pourront retrouver la plénitude de leur autorité.
Alors, à ce moment-là, débute une période extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Vous écrivez, cher Éloi Vial, que Marie-Antoinette n'a pas compris grand-chose de la Révolution. Pourtant, vous décrivez également une femme politique.
Oui, alors, c'est une femme politique qui est vraiment dans l'action.
Oui.
Elle est dans l'action, elle est dans le concret. Elle n'est pas dans la lecture des ouvrages théoriques politiques. Quand on essaye, enfin, c'est notamment, ça va être peut-être le cas un peu de Mirabeau, qui se retourne, donc qui se met à servir le roi.
Oui.
Puis ensuite de Barnave, qui est un ancien député qui, après Varennes, va la renseigner, essayer de lui expliquer, lui montrer qu'est-ce que c'est que la Révolution.
Il aurait été un peu séduit par cette
femme. Ils ont tous peut-être été un peu charmés, mais surtout charmés. Ils ont vu une opportunité d'atteindre le roi, qui est insaisissable. Donc ils ont voulu, avec elle, lui faire comprendre que la monarchie peut sortir confortée de la Révolution, pérennisée. Mais ça, elle va refuser vraiment de le comprendre, elle va refuser de l'envisager. Donc elle fait semblant de se rallier. Elle fait semblant d'envisager leur proposition de mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Elle ne l'accepte pas.
Ouais. On voit la finesse de ce jeu politique. Au milieu de tout ça, l'amour toujours, Axel de Fersen.
Oui,
ça a été son grand amour quand même.
Oui, alors la question d'Axel de Fersen est toujours compliquée. Alors si on part de la fin, on peut le voir comme un agent politique. Donc il porte ses lettres, il la conseille, il la soutient. Il voyage beaucoup à l'étranger en Europe, donc ça montre un dévouement absolument sans faille de sa part. On peut se demander pourquoi. Donc depuis qu'ils se sont rencontrés en 1774, ils se sont rapprochés, ils se sont bien entendus. Il y a de l'amitié, vraisemblablement une amitié amoureuse.
Oui, un peu plus que ça, si on vous lit bien, Charles-Éloi Vial.
Entre les lignes, sans doute un peu plus que ça, mais on n'en saura jamais vraiment rien.
Oui.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir d'une certaine date, où il aurait eu une entrevue avec la reine, il a décidé de s'installer en France, il a décidé de ne pas se marier, de rester célibataire, et il a dédié sa vie visiblement à Marie-Antoinette. Donc, il y a une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui est impossible, puisque c'est la reine, bien sûr. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé entre eux. Tout ce que l'on peut dire, c'est que, visiblement, il était prêt à donner sa vie pour elle. Elle a sans doute pensé à lui jusqu'à la fin. Lui a pensé à Marie-Antoinette jusqu'à la fin de sa vie. L'exécution de Marie-Antoinette l'a complètement détruit. Donc il y a malgré tout une histoire d'amour. Mais pour le reste, l'historien s'arrête à la porte de la chambre à coucher.
Et puis il y a cette prouesse technique du décryptage des échanges de courriers.
Effectivement, que mes collègues des archives nationales ont pu décrypter en analysant les différentes encres. Donc, l'encre
des encres sympathiques
Non, de la vraie encre. Donc l'écriture de Marie-Antoinette était écrite dans une certaine encre. Et ensuite Fersen avait caviardé pour pas qu'on lise, mais avec une encre différente, avec une autre composition chimique. Donc on arrive à distinguer les deux et à déchiffrer les mots de Marie-Antoinette, qui sont des déclarations d'amour très claires.
Bon, alors il faut quand même dire deux mots de ce procès absolument hallucinant devant le tribunal révolutionnaire. Autant le procès de Louis XVI peut être compris comme un procès politique, là on est devant un procès absolument hallucinant que vous décrivez. Elle est accusée d'inceste. En quoi ce procès de la reine a-t-il été différent du procès de son mari Louis XVI?
Alors le procès de Louis XVI, effectivement, c'est un procès très politique. On juge un chef d'État qui est considéré comme incapable de remplir ses fonctions, qui a trahi, qui aurait même abdiqué de facto en essayant de quitter sa capitale. Donc c'est vraiment un procès très politique. Marie-Antoinette, c'est plus un bouc émissaire, donc le procès est davantage symbolique. On va chercher à châtier la souveraine, la femme de cour, la dépensière. Donc en réalité, la Marie-Antoinette que l'on punit n'est pas vraiment la personne réelle. C'est la Marie-Antoinette des pamphlets, celle de l'affaire du collier, celle des rumeurs sur les débauches, sur les orgies, sur les millions que
elle
l'on envoie.
Elle a toujours été sous le feu des pamphlets, elle toujours.
Toujours. Alors après, il y en a moins qu'on le pense, mais on ne sait pas quelle est leur portée. Est-ce qu'ils se diffusent sous la forme de rumeurs, de chansons, à l'oral? Il y en a quand même eu un certain nombre. Il y en a beaucoup eu, bien sûr, sous la Révolution. Donc on a cette femme imaginaire, cette femme de papier qui est censée être sanguinaire, débauchée, incestueuse. Et c'est elle que l'on va punir. Et à travers elle, on va punir toute la société de cour, qui est une société que l'on veut voir disparaître à tout jamais.
Un peu comme le procès fait à la Dubarry. On avait ici à votre place Emmanuel de Varesquiel récemment.
Oui, c'est un peu la même chose.
On peut faire ce parallèle. En quelques mots, Marie-Hélène Bellac, vous qui avez beaucoup travaillé aussi sur le 19e, quel regard vous portez sur Marie-Antoinette? Qu'est-ce qu'on peut en retenir, à votre avis?
Moi, c'est un personnage qui m'a toujours fascinée parce que j'avais commencé à m'y intéresser, notamment quand j'avais écrit un livre sur la prise des Tuileries et la période qui suit. Et j'ai toujours, même si c'est pas apparemment ce que pensaient la plupart des gens, pensé que c'était autre chose qu'une courtisane, une femme évaporée, et qu'elle prenait une dimension à partir du moment où elle était emprisonnée, tout à fait étonnante, enfin extraordinaire. Mais je vais dire quelque chose un peu, ça semblait banal, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas qui, une fois, je pense à Hortense de Beauharnais, qui a dû quitter la France en 24 heures en 1815, après Waterloo, et elle aussi, elle, c'était une princesse assez effacée, finalement, et dans l'exil, elle est devenue une forte femme. Et je pense que
dans l'adversité,
dans l'adversité,
les femmes se révèlent.
Que confrontées à des difficultés, souvent, elles prennent une place qu'elles n'avaient pas l'habitude d'avoir aussi dans la société. La société les obligeait, le poids de la société, des contraintes, les obligeait à avoir une place en retrait. Et là, on dirait en quelque sorte que ça éclate, qu'elles se révèlent.
Juste un mot pour terminer, Charles Wavial. Vous écrivez que, en fait, cette révolution française était un peu inscrite dans le destin de la France. La crise financière, la chute de la crédibilité de l'institution royale, la diffusion des Lumières.
Alors là, on est effectivement sous Louis XVI. Oui. Il y a une sorte de spirale infernale d'alignement des planètes, on peut dire. Voilà. Tous les éléments sont en place pour qu'une révolution éclate. Alors, elle aurait pu être évitée, elle aurait été peut-être encore évitable, mais sans doute que Louis XVI n'était pas à la hauteur des enjeux. Et Marie-Antoinette n'a pas non plus tout à fait compris. Après tout, elle n'était pas là pour régner, elle était là plutôt pour le soutenir. Mais les deux souverains étaient imparfaits, n'étaient pas à la hauteur des enjeux, les ministres non plus. Et c'est ça qui a précipité la chute.
Oui, ils ont été emportés.
Ils ont été emportés
par ce flot qu'ils n'ont pas su retenir, qu'ils n'avaient pas les moyens de retenir.
Exactement. Ce qui n'a pas empêché, bien sûr, qu'ils fassent preuve de dignité, de courage. Et effectivement, c'est l'épreuve qui révèle Marie-Antoinette, qui montre la personnalité de fer, qui montre son courage qu'elle pouvait avoir par ailleurs.
Donc, vous insistez là-dessus, dans ces dernières semaines, ces derniers mois, sachant qu'elle était très très malade et qu'elle était guillotinée mourante en quelque sorte.
Oui, c'est une femme qui est probablement malade et très probablement mourante en prison, mais elle se bat lors de son procès, elle se défend parce qu'elle cherche avant tout à revoir ses enfants. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment cet amour qu'elle a pour ses enfants, qu'elle essaye de défendre à tout prix et qu'elle veut revoir. C'est pour ça qu'elle se bat, même si elle sait qu'elle va probablement finir à l'échafaud. Donc, contrairement à Louise Michel qui réclame quasiment d'être fusillée, elle ne l'accepte pas, mais à la fin, elle accueille sans doute quand même la mort comme une délivrance. On le voit, elle monte à l'échafaud de manière très légère.
Un grand merci à vous deux, un grand merci à Marie-Hélène Bellac pour son Louise Michel chez Perrin, à Charles-Éloi Vial pour son Marie-Antoinette chez Perrin. Deux destins de femmes, deux destins de l'histoire de France et deux destins que vous avez réussi l'un et l'autre à retracer de façon absolument passionnante. Donc un grand merci à vous deux et j'incite vivement nos auditeurs à se plonger dans ces biographies. Vous découvrirez deux femmes et peut-être deux visages de la France. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et vous pouvez évidemment écouter et réécouter ad libitum autant que vous voulez donc les différentes éditions des Racines du Présent. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.